confortable. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Gute da, gute morje, oder puschurle, wie immer, ja puschurle, ihr levi grossi or leppele. De semaine en semaine, je vous ai fait une place à mes côtés pour effeuiller nos innombrables invités comme une marguerite. Vous vous souvenez, chères grandes oreilles, la marguerite, les pétales à la folie, passionnément ou pas du tout, pétale après pétale, nos invités se racontent, se dépeignent et nous confient leurs petits secrets. Moi, j'aime savoir. Non, ce n'est pas de la curiosité mal placée. Non, la soif d'apprendre, l'envie de découvrir l'autre, à quoi pense-t-il, que fait-il ? La curiosité est une sacrée qualité. Non, vraiment, vraiment. Et aujourd'hui, je suis encore plus curieux que d'habitude. Normal, un journaliste doit être curieux et même audacieux. J'ai fait une place à un virtuose, franco-argentin, pianiste, chef de chœur. Il a fondé l'Orchestre du Rhin et ce n'est pas rien. À vos marques, préchantez. Buenos dias, Luciano Biblioni. Comment ça gazouille dans votre planète musicale ?
Bonjour, bonjour. Ah, ça va très bien. Content de vous rencontrer.
Ben moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Alors, vous savez, moi, je suis très curieux. On va fermer les yeux, on va un peu voyager. Et dites-moi, c'était comment l'Argentine de votre enfance ?
Bon, l'Argentine, c'est presque comme une vie passée, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis en France.
Mais vous avez des souvenirs ?
Ah, c'est ma vie tout de même, comme si on avait plusieurs vies. Donc, l'Argentine, c'est surtout l'Argentine de mon enfance.
Donc, joyeuse ?
L'Argentine des affects, puisque quand on est enfant, c'est presque pure affection. Les parents, les amis, la famille. Donc, pour moi, fermer les yeux, penser en Argentine, c'est penser à l'amour qui m'entourait quand j'étais petit et qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui.
Et en fait, vous étiez un garçonnet studieux, rêveur à l'école ?
J'étais pas vraiment studieux, mais j'avais la chance d'avoir une bonne mémoire. Donc, je me souvenais de tout ce que j'entendais.
Donc, facilité incroyable.
Voilà. Après, quand la mémoire commence à décliner, les choses sont plus compliquées, parce qu'il faut apprendre à apprendre. Mais petit, ça allait très bien.
C'est une chance, ça, d'écouter l'instit et de tout engranger, de ne jamais presque pas travailler, quoi.
Oui, je me suis rendu compte assez tardivement que tout le monde ne fonctionnait pas de la même façon. Et donc, maintenant, j'essaye d'apprendre... D'apprendre à apprendre d'autres façons, on va dire.
Et la mémoire est toujours là ?
Il reste quelques réflexes, mais j'oublie aussi des choses comme tout le monde.
Alors, vous avez baigné dans la musique quand vous étiez petit garçon ?
Oui et non. C'est-à-dire que petit bébé, apparemment, je pleurais à l'écoute de certaines musiques.
Ah ouais ? Dans votre berceau, vous voulez dire ?
Oui. Et donc, j'étais ému très facilement.
Et surtout aux larmes,
et c'est surtout la voix des femmes qui apparemment me touchait plus particulièrement.
La voix de votre maman ?
Non, elle chantait pas. C'était des enregistrements. Aussi, j'aimais beaucoup la musique symphonique. Ça crée en moi des mouvements assez spéciaux, et je pense que je garde ça même à ce jour.
Vous voulez me dire que vous vous êtes biberonné avec de la musique ?
Oui, mon père est un mélomane, mais on ne pratiquait pas forcément la musique, et encore moins en famille.
Vous chantiez à la maison, c'est ça ?
Je chantais petit, pas trop à la maison, c'est curieux. C'est surtout à l'école, mais pas tellement non plus. Hein. C'était moins ponctuel, c'était comme une dégustation rare,
le fait de chanter. Ouais,
ouais. J'aimais beaucoup la voix de, par exemple, Karen Carpenter, du duo The Carpenters, un groupe américain très célèbre dans les années 70 et 80. Et à ce jour, j'écoute ça et c'est très spécial. La musique de Mozart, je me souviens, mon père mettait parfois un enregistrement de la symphonie en sol mineur. Et c'était rentré dans un autre univers.
Ouais. Et alors, vous êtes arrivé à la musique assez jeune. Vous avez commencé à faire du piano.
C'est ça. En fait, ma sœur faisait du piano, puisque je ne sais pas pourquoi. Elle a commencé à faire du piano. Elle a insisté énormément. Mes parents ne voulaient pas avoir un piano à la maison et l'effort qui va avec. Mais ma sœur a insisté auprès de mon arrière-grand-mère. à qui personne ne disait non. Et mon arrière-grand-mère a dit, il faut que cette fille fasse du piano.
Elle a acheté un piano à votre sœur.
Et donc, mes parents ont cédé à force, ma sœur très convaincante. Et un peu pour imiter ma sœur, mon frère s'y est mis aussi. Donc finalement, j'ai cédé au mouvement familial et je me suis mis un peu au piano.
C'était un piano à plusieurs mains alors?
On a jamais fait du piano à quatre mains, C'est dommage, puisque après, avec le temps, on se rend compte que c'est...
Et il était comment ce piano? Un piano droit? Un immense meuble? Quand on est petit garçon, c'est quand même un grand meuble.
En effet.
Il y a combien? Il y a 88 touches, je crois.
Oui, si on a de la chance. Il y en a qui sont un peu plus courts.
Ouais.
Mais oui, c'était un grand meuble. Mais je ne regardais pas trop le meuble. Moi, j'étais concentré sur les touches.
Et vous êtes arrivé avec vos petites mains de garçonnet?
Oui, j'aimais composer, je faisais n'importe quoi sur le clavier et bien vite, je me suis rendu compte que je tournais un peu en rond et donc qu'on avait besoin d'apprendre des autres pour faire des choses intéressantes.
Et c'est aussi là, à ce moment-là, votre mémoire vous a aidé, parce que mémoriser des airs de musique comme ça, c'est quand même pas rien, quoi.
J'avais du mal à lire la musique puisque je n'avais pas eu la chance d'avoir des professeurs qui m'enseignaient vraiment à intégrer la notation musicale comme on apprend une langue maternelle. Et donc, tout était basé sur la mémoire des sons et la mémoire des gestes musculaires.
Vous aviez une oreille musicale et du talent?
Honnêtement, je pense que c'était assez normal.
Comme tout le monde?
Voilà, comme tout le monde. Et ça nous forme, puisque à ce jour, je suis convaincu que tout le monde est un peu musicien.
On a tous une musicalité quelque part. C'est sûr qu'on est tous... Dans la nature, il y a la musique. La musique est partout, autour de nous.
Oui. Oui, on peut écouter de la musique effectivement partout, dans la nature, mais même dans la ville. Et donc vous disiez, on est tous musiciens aussi. Et pour moi, tous ceux qui peuvent parler peuvent chanter, puisque la voix parlée, c'est une façon de chanter.
Non, mais moi, je sais que je ne sais pas chanter. J'ai une voix un peu de radio comme ça, mais si je chante, il va encore pleuvoir pendant des semaines et des semaines. Je crois que je n'ai pas habitué à chanter, quoi. Je chante, ma petite voix à l'intérieur chante, mais sortir un son, pour moi, c'est un peu difficile, quoi.
Un peu difficile, quoi.
Ah, c'était déjà de la musicalité. Ah, voilà. D'accord, waouh. Alors, après le piano, vous avez joué longtemps au piano, mais après il y a eu d'autres instruments, le violon par exemple?
Oui, avant le violon, j'ai fait un peu de guitare, puisque à 13 ans, je n'avais pas trouvé le piano aussi amusant que d'autres instruments qu'on voit dans les vidéos.
La guitare, c'était un peu pour les copines, non? Pour un peu vos années Playboy, peut-être, non? Pour un petit peu charmer les filles?
Dans l'élan général, on va dire, de la jeunesse, où tout le monde était branché au rock, à la musique pop, et ça collait mieux avec une guitare. Donc, la guitare acoustique, ça a vite fait le tour, donc c'était plutôt la guitare électrique. Et vers les 17 ans, j'ai commencé le violon. Puisque, effectivement, avec les études universitaires, on nous encourageait à faire un instrument de chaque famille, des instruments de l'orchestre. Et donc, le violon, on m'a offert un violon qui coûtait, je ne sais pas, 50 euros.
Hein, c'était presque
une boîte à chaussures. Mais ça
boîte à chaussures.
Oui, tellement c'était bon marché. Mais ça m'a permis un peu de me familiariser avec cet instrument-là que j'ai beaucoup apprécié.
Et ça, c'est du classique. Mais qu'est-ce qu'on écoute à 17 ans quand on s'appelle Luccioni Biblioni? On écoute quoi? On écoute les Stones? On écoute les Pink Floyd? On écoute quoi à cette période-là?
Mes parents, surtout mon père, je disais qu'il écoutait beaucoup de musique, écoutait de la musique des années 30, 40, mais aussi de la musique de son temps. Les Beatles, évidemment. Donc, je connais presque toute la discographie des Beatles par cœur.
Ah ouais, par cœur?
Oui, ouais. Puisque ça s'écoutait tout le temps. Je passais beaucoup de temps dans la voiture, puisque mon père s'occupait de mon frère, l'amener ici.
Vous savez fredonner une petite musiquette des Beatles?
Voilà, pas à 7h du matin, mais à 3h du matin avec un bon verre, peut-être.
Ah ouais, là, ça vient tout doucement, ouais. Et alors, vous avez aussi une voix, enfin, on parle de votre voix, vous chantez quand alors? Vous chantez sous votre douche ou alors quand vous brossez les dents? Ça, il vous arrive de chanter quand même, de fredonner?
Oui, j'utilise beaucoup ma voix pour travailler, donc quand on dirige des ensembles.
Une voix de basse, non? Vous avez une comment? On appelle comment votre tessiture de voix?
La voix parlée n'est pas tout à fait comme la voix chantée.
Ah oui.
Donc ma voix chantée est plutôt aiguë, donc ça surprend parfois aussi, mais aussi puisque je suis paresseux. Donc, quand on est paresseux, on parle grave.
Vous êtes paresseux, vous dites ?
Avec la voix parlée, oui.
Tous les gens qui ont une grosse mémoire comme la vôtre, on dit qu'ils sont paresseux parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Tout rentre comme ça dans la tête, quoi. C'est quand même une chance extraordinaire. Alors, on va écouter une première petite musiquette avec notre ami Thomas qui va nous mettre pour reposer les oreilles, il va nous mettre un vinyle sur la platine qui gratouille un peu. Vas-y, Thomas, envoie la sauce. Alors, Lucioni, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette œuvre ?
Alors, c'est un monument, c'est une référence de la musique européenne, mais je pense aussi de la musique universelle. Donc, le Messie de Handel est une œuvre très particulière, puisqu'il l'a composée très vite, mais c'est une espèce de synthèse de sa vie jusqu'à ce moment-là. Il s'est volé à lui-même différents mouvements des différentes œuvres. Donc il a dit, voilà, en 3 semaines, j'ai composé un monument. Et effectivement, c'était un monument, mais c'était une synthèse de différentes musiques qu'il avait explorées.
Il s'y inspirait d'autres pour en arriver là ?
Tout à fait, oui.
Copier ? Inspiré, pas copié.
Inspiré, et il a inspiré plein d'autres, que ce soit Mozart ou Haydn. Et donc parfois, nous-mêmes, quand nous faisons dans le projet Abomark Préchanté, le Messie de Handel participatif, nous nous permettons de faire quelques clins d'œil avec des citations de Mozart au milieu du spectacle.
On fera un petit clin d'œil tout à l'heure à tout ça, parce qu'on va encore suivre un petit peu le raisonnement. Vous avez fait des études universitaires de musique et vous êtes bardé de diplômes. J'ai vu ça sur Internet, mais ça n'arrête pas, quoi. Vous avez fait plein de trucs.
Bah, jusqu'à, je sais pas, 35 ans, j'ai...
Étudié.
J'ai toujours été étudiant. Et j'aime la musique, tout simplement, tout bêtement, si vous voulez. Et donc, j'aime bien le piano, j'aime bien l'orchestre, la musique chorale. Je suis passionné de musique, mais pas cantonné à un seul instrument, par exemple, ou à une seule discipline.
À tous les instruments ?
Un peu, oui, à la musique, peu importe. Donc, j'ai remarqué que la musique était plus belle, surtout quand j'étais étudiant, avec un professeur qui me motivait ou qui avait la passion lui-même. Et donc, vite, je me suis tourné vers les bons professeurs dans la musique, indépendamment de la matière qu'ils enseignaient. Donc, s'il y avait un bon professeur de violon, j'allais apprendre le violon. C'est pour ça que j'ai eu un violon, puisque j'ai appris qu'il y avait un bon professeur de violon.
Un bon professeur, c'est quelqu'un qui n'est qu'un peu musicien, mais qui a une belle personnalité. C'est ça que vous voulez dire ?
On dit qu'il n'y a pas de bon professeur pour tous les élèves, ni un bon élève pour tous les professeurs. Ouais, donc, c'est une question de compatibilité.
Juste. D'accord.
Donc, on me disait qu'il y avait quelqu'un qui était très bien. J'étais curieux comme vous et j'allais voir ce que c'était. Et si la sauce prenait, comme la mayonnaise, on pouvait faire des années et c'est ça qui me formait.
Et c'est ça qui vous a apporté quelque chose, en fait.
Et donc, ces diplômes, c'est un peu le résultat des rencontres.
Oui, c'est
donc
ça.
Là où j'ai trouvé quelqu'un d'intéressant, j'y allais. Et donc, quand j'arrive en France, il y a une vingtaine d'années, je tombe sur un conservatoire qui n'était pas particulièrement intéressant, avec des professeurs qui n'étaient pas particulièrement motivés non plus à enseigner. Et donc, tout de suite, je me suis dit, je ne peux pas passer mon temps à être dans un bureau, dans un conservatoire,
juste pour avoir
un papier. Allons chercher des bons professeurs. Et donc, ma quête a commencé. Et à Paris, il y a une vingtaine de conservatoires avec des centaines et des centaines de professeurs, dont quelques-uns très bons. Et donc, je me suis mis en contact avec eux. J'ai fait de la musique ancienne ou de l'analyse musicale ou de l'orchestration, juste puisqu'il y avait un bon professeur dans cette matière-là.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, la musique argentine, c'est une musique de fête. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette musique ?
Alors, L'Argentine est un pays très particulier pour ceux qui ne sont pas allés ou qui ne se sont pas intéressés.
Je ne connais pas, hein, je n'ai jamais été en Argentine.
C'est très particulier puisque entre le sud et le nord de l'Argentine, on a les mêmes proportions qu'entre le sud et le nord de l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut avoir la météo de Séville en même temps. le même jour qu'on peut avoir la météo du nord de la Finlande.
Ah oui, ok.
Donc
wow.
C'est un pays très très large, très vaste, et donc c'est un pays qui est macrocéphalique, c'est-à-dire
que... Ça veut dire quoi ça?
Bah, qu'il y a une tête grande.
Ah d'accord.
Une grosse
ouais.
tête.
Ah oui, une grosse tête. Ouais,
et
okay.
donc comme la tête c'est la capitale, la ville de Buenos Aires c'est énorme, avec 20 millions d'habitants,
wow. ouais.
et tout le reste du pays est parsemé un peu clairsemé, je dirais, d'habitants. Et donc la musique aussi, il y a la musique de la ville et la musique du reste du pays.
Mais on va juste écouter une petite musiquette, mais nous Thomas, la musique numéro 3, le tango argentin, on va voir un peu ce qu'il en pense de ce tango. C'est une belle musique, hein. C'est aussi une danse, le tango. Hein. C'est comme du patin-glace, on glisse sur un parquet et c'est très sensuel, c'est corps à corps comme ça le tango. Hein.
Aujourd'hui, oui. Bah, naguère, ce n'était pas le cas. Mais bon, ça, c'est la musique de la ville, donc de la ville de Buenos Aires. Et on fait la différence en Argentine entre la musique de Buenos Aires et du reste du pays. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'influence espagnole, bien sûr. Mais comme le pays lui-même, c'est une musique qui s'inspire de tout ce qu'ils ont traversé. Donc en Argentine, il y a eu beaucoup de musique italienne, des influences italiennes. Il y a eu de l'immigration, c'est drôle, de beaucoup d'Européens. Par exemple, la ville de Buenos Aires, c'est la troisième ville au monde, la deuxième ville au monde où il y a le plus de juifs.
Ah oui, ah oui.
C'est étonnant puisque la première est en New York.
Ah oui, bah oui.
La deuxième, c'est Buenos Aires et après Tel Aviv. Et donc, c'est très intéressant puisqu'il y a un peu d'influence aussi des traditions juives dans certaines
mais
musiques.
Mais là, vous êtes dans la bonne maison ici, alors
c'est pour ça.
Oui, oui, c'est bien.
Que je faisais
ouais.
le lien. Et, ouais. et donc, il y a aussi des influences africaines. C'est très intéressant ce que ça peut faire, le syncrétisme.
Je voulais aussi vous parler d'une autre musique argentine, celle de Maradona et de Messi. C'est aussi dans des grandes arènes, quand le peuple chante, quand ils perdent ou ils gagnent, ça aussi c'est une musique.
C'est intéressant la musique dans les stades, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils chantent faux, alors que si on mettait un microphone devant la bouche des gens, c'est clairement faux. Mais c'est le fait du collectif, et c'est ça qui est impactant.
Oui, quand ça gagne ou ça perd, ça chante, quoi. Ça soutient leur
mais footballer. Bon, je suis allé il n'y a pas très longtemps à un match au Racing.
Ah oui
bon, avec mes lunettes de musicien, et j'ai passé un super moment, surtout un moment musical.
Oui, parce qu'il y a quand même 25 000 personnes. Ils gagnent ou ils perdent, ils sont là, quoi. Mm-hmm. Je crois que c'est le premier stade en France où il y a autant de public, autant de gens qui sont... Qui soutiennent leur équipe, qui gagnent ou qui perdent. Et alors, je voulais aussi vous parler, donc après l'Argentine, bien sûr, vous êtes venu ici en Alsace, vous êtes venu à Colmar, vous êtes allé à Offenbourg, à Barcelone, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Hein. Et depuis 10 ans maintenant, vous dirigez l'orchestre de l'Opéra du Rhin. Ouais.
Donc l'Orchestre du Rhin est un orchestre indépendant de l'Opéra ou de l'Orchestre Philharmonique, c'est un ensemble... Qui a différentes vocations, mais surtout à faire découvrir de la musique, un peu aussi à aller en région. Et c'est l'orchestre privilégié, puisque c'est lui qui porte le projet.
Vous l'avez formé,
Préchanté.
Vous êtes à l'origine?
C'est ça. Donc, on a besoin de cet instrument, puisqu'un orchestre, même si c'est plusieurs instrumentistes, lui-même est un instrument comme une mise en abîme. Et donc, cet orchestre a fait des super projets depuis 2014, donc bientôt 10 ans.
Vous dirigez ça avec une baguette?
La plupart du temps, mais pas tout le temps.
Et votre baguette, c'est une baguette en bois, en carbone, ou alors elle est faite sur mesure, comme certains grands chefs prestigieux qui ont... C'est comment, c'est une baguette...
J'avais une baguette sur mesure, mais elle est disparue.
Vous l'avez volée
dans un concert, je l'ai posée quelque part et après, je ne l'ai plus retrouvée. Mais sinon, bon, c'est des baguettes. L'idée de la baguette, c'est d'amplifier le geste, donc quand l'orchestre est grand.
Mettre la mesure.
Oui, bien sûr, mais c'est surtout quand il y a des gens qui sont loin, puisque c'est comme si on avait des bras plus longs.
Ah, la baguette, c'est un... Voilà. Ah ouais, d'accord.
C'est un amplificateur.
C'est extraordinaire. Ouais.
Et donc, si on a un petit ensemble, c'est un peu ridicule d'amplifier son geste. Ouais. Mais bon, peut-être ça peut être nécessaire pour
Mais quand on dirige un grand orchestre comme celui-là, est-ce que il faut connaître tous les instruments? Il faut se connaître la musicalité de tous les instruments, du saxo, enfin de la guitare, enfin de...
C'est mieux de connaître le plus possible pour parler un peu avec autorité. Mais il ne faut pas qu'un chef ait la prétention d'être meilleur que les musiciens qui sont devant lui dans leur domaine. Donc il faut faire beaucoup de confiance. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer des bons musiciens et leur permettre de faire ce qu'ils font du mieux.
Ce sont des gens qui ont fait le conservatoire, enfin ceux qui vous entourent.
Ce sont des professionnels du meilleur qu'il y a le rang supérieur. Donc oui, c'est des gens qui
là, vous allez encore grandir de jour en jour.
Et c'est l'idée, c'est qu'on grandisse tous. Et modestement, il faut étudier suffisamment sa partition pour pouvoir proposer du point de vue du chef d'orchestre quelque chose d'intéressant.
Alors hier soir, je suis passé à la Robertsau devant une belle villa et j'ai entendu quelqu'un qui fait des vocalises. J'ai frappé à sa porte, toc, 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 je suis rentré. Et ce monsieur-là était en train de travailler. Alors, vas-y Thomas, mets-nous voir le petit Bobino là, que je t'ai présenté tout à l'heure. Dis-moi Daniel, qu'est-ce que tu prépares là? C'est des cours du soir?
Alors là, je travaille des chants pour... Le chœur participatif.
Ça veut dire quoi, le chœur participatif?
Chœur participatif, c'est un projet donc, qui est dirigé par Luciano Bibiloni.
L'Argentin.
Oui, voilà. Et qui rassemble plusieurs centaines de choristes.
Et donc, tu prépares ce soir, tu organises ta voix là, pour mieux chanter?
Voilà, là, on a un site internet qui nous donne les différentes voix. Ça permet de les mémoriser, de les travailler chacun entre les répétitions qu'on fait tous ensemble une fois par mois.
Et finalement, ça sert à quoi tout ça?
C'est pour préparer le grand concert du mois de juin au Zénith, donc devant des milliers de spectateurs, avec donc près d'un millier de participants, choristes, des enfants aussi, des écoles, la maîtrise, un orchestre. Donc ça fait beaucoup de monde.
C'est grandiose. Et il est comment le chef d'orchestre, le chef des chœurs? Il est comment Luciano?
Le chef, il est un peu dingue de se lancer dans des aventures pareilles, mais il est très efficace. Et année après année, on fait des concerts merveilleux. Ouais, super.
Alors, vous êtes un peu dingo, quoi?
Oui, plus on est fou, plus on s'amuse.
Ah, c'est chouette, ça. Vous voyez, en fait, ce monsieur fait du travail, il travaille chez lui. Pour,
bien, consciencieux.
Consciencieux, ouais, c'est ça. Alors, parlez-moi un petit peu à vos marques préchantées. C'est quoi exactement?
C'est un projet pour essayer de tisser des liens entre les gens, surtout des gens qui parfois ne se rencontrent pas. Donc, les écoles de musique, des chorales, des individus un peu isolés aussi.
1000 personnes quand même, c'est incroyable.
1000 personnes.
Des enfants comme des adultes, comme des femmes, comme des hommes.
Intergénérationnels, en effet. Des voix aiguës, des voix graves. Et c'est un peu pour montrer que la différence peut être une richesse pourvu qu'on se donne la peine et qu'on a besoin du différent. Et puisque les semblables, c'est finalement ennuyeux.
Mais c'est pas une sorte de cacophonie, tout ça, tous ces gens, ces 1000 personnes qui chantent ensemble. J'imagine, il y a des voix tellement différentes.
C'est grâce à la magie de la musique que c'est pas cacophonique.
Et ça, vous arrivez à le faire?
Essaye. Justement, c'est pour ça qu'il y en a qui étudient à la maison, qui révisent, et qu'on fait beaucoup d'ateliers, un atelier par mois avec des adultes, mais les enfants le font en temps scolaire, ou il y a certaines écoles de musique en temps extrascolaire. Donc tout le monde, selon ses caractéristiques, le fait à sa façon, et on se retrouve ensemble.
Donc ce sont des petits paquets de gens qui travaillent chacun dans des coins différents, et un jour vous vous rassemblez tous ensemble, et ça c'est au Zénith alors?
Donc, il y a la dernière ligne droite entre mai et juin où on commence à se rencontrer puisque chacun a des spécificités. Et effectivement, le 11 juin, c'est le spectacle que nous donnons au Zénith.
Au Zénith ? Waouh !
Donc c'est une grande salle, et il y a beaucoup de Strasbourgeois qui ne le savent pas, mais le Zénith de Strasbourg, c'est le Zénith le plus grand d'Europe, avec une capacité de 12 000 personnes. Donc, je ne sais pas si cette année, on va arriver à 12 000.
L'année dernière, vous aviez combien de personnes?
On était à environ 3 000. Ouais. Donc, on va voir si cette année, on est plus nombreux pour mieux fêter. Et donc, la thématique de cette année, c'est la musique du monde, qu'on appelle comme ça, la musique folklorique, la musique ethnique. Et il y a beaucoup de Français qui ne savent pas qu'il y a de la musique folklorique aussi française.
Et alors, je sais que pour organiser tout ça, vous avez des manques de moyens, on ne vous suit plus, les mécènes vous font un peu la tête, et ils sont partis, ils sont fâchés avec vous, quoi.
Alors, bon, c'est particulier, en effet. On ne va pas parler mal de quiconque, mais effectivement...
La ville de Strasbourg ne vous suit plus ?
Alors, la ville de Strasbourg nous suit, mais effectivement, ils ont baissé les subventions. Ils baissent les subventions un peu partout, mais c'est vrai que pour nous, ça a été 30% de baisse de subventions.
Mais pour quelle raison ? Ils ne sont pas musiciens à Strasbourg, là ? Notre mairesse, elle n'aime pas la musique ou quoi ?
Je pense qu'elle aime la musique. Elle nous a dit qu'elle chantait en chœur.
Ah,
donc, il devrait y avoir plus d'affinité. Elle est invitée systématiquement.
Mais à chanter ?
Oui. Apparemment, elle n'a pas le temps. Mais c'est, par exemple, un coup dur, ça a été la région qui nous soutenait et qui a disparu complètement. Elle ne nous donne même pas un euro.
Ce n'est pas possible. Et pourtant, ils en ont des moyens, franchement.
Ben, il faut croire que non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un projet que nous menons, c'est un projet collectif. C'est pour ça que ça a du sens, le soutien des institutions publiques.
Mais oui.
Puisque je vais vous parler des différents publics qui chantent avec nous, mais aussi le public qui les accompagne, c'est-à-dire les spectateurs. Et c'est extrêmement varié. On essaye de faire que ce projet soit à l'image de la ville ou de la cité, comme une idée un peu abstraite. Et donc, nous avons parfois des SDF, nous avons parfois des migrants, nous avons des IME. Vous connaissez les
oui,
IME
Oui, ça me parle.
Donc, c'est des instituts médico-éducatifs. Ouais. Donc, il y a des handicapés. Bref, c'est une occasion inouï d'avoir le temps d'une répétition, le temps d'un concert et parfois le long d'une année, de rassembler des gens qui ne se rencontreraient pas dans un but commun et de voir qu'une société différente peut exister.
C'est noble ce que vous faites, c'est bien de rassembler des gens.
Bah, on cherche tous du sens. Donc les gens qui s'inscrivent pour chanter cherchent du sens. Moi, je cherche du sens quand je rencontre ces chanteurs. Chaque année, on a un tiers des chanteurs qui sont des débutants, que ce soit des enfants ou des adultes. Et des débutants purs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais chanté et qui vont rarement, voire jamais, à des spectacles. C'est des gens avec qui, après, on a un langage commun et avec qui on peut construire des choses.
C'est magnifique. Écoutez, ça va être le mot de fin. En tout cas, j'étais très content de vous rencontrer.
Merci.
Et merci beaucoup pour tout. Et puis, bonne chance pour le mois de juin au Zénith. Je viendrai vous écouter. Ouais, parce que ma femme, elle chante avec vous aussi. Donc,
c'est génial.
Mais elle est tellement timide, elle voulait pas apparaître. Et surtout, ne l'appelez pas quand vous la verrez. En tout cas, Thomas, on va mettre le petit générique de fin. Merci beaucoup, Luciano, d'être venu à la radio chez nous.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà. Chez petite